on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'afterfoot avec Daniel Riolo, Stéphane Guy, RMC, l'after jusqu'à minuit, 22h16. Notre invité, Ciné Govou, qui sort son autobiographie. Ciné Govou, gagné, ce n'est pas normal. Coécrit avec Édouard G, qu'on retrouve tout de suite. Édouard G, Ligue des Champions féminines, Lyon-Arsenal.
Bientôt l'heure de jeu, toujours cet avantage pour les joueuses d'Arsenal. 3-1 score acquis à la mi-temps. Et on rappelle que du côté de Lyon, ceci explique peut-être cela. Il y a énormément d'absents, notamment Carpenter, Egerberg, Majri, Mbok, Cascarino ou encore Jennifer Marozan. Donc c'est une équipe jeune qui pour l'instant trébuche en entame de Ligue des Champions dans cette phase de poule.
Et toujours à zéro pour Liverpool.
Oui.
Première journée de la phase de poule, exactement. Pour l'Olympique
Lyonnais. C'est pas éliminatoire de perdre à domicile ce soir.
Tout à fait, mais ça ferait tâche quand même pour un champion d'Europe.
C'est vrai.
Commençons par l'actu, si tu veux bien, donc sur l'Olympique Lyonnais, ton club de toujours. Évidemment, tu as fait une interview chez le confrère de l'équipe en début de mois. Nous, on l'a lu ça, on a fait waouh, bazooka. Et on a aimé. On a aimé parce que c'est rare qu'un ancien joueur parle si franchement de son ancien club, avec lequel surtout il a beaucoup gagné. Notamment, tu dis que Lyon aujourd'hui, c'est une équipe de sénateurs.
Bah déjà, si je le dis, c'est ce que je pense.
Mais c'est ça, c'est intéressant.
Ce que je pense, je m'arrête pas à ça. Et je pars du principe que j'aime l'OL, j'aime le club, j'aime, oui, parce que j'ai grandi avec l'OL, c'est ce qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et derrière, ça fait plusieurs années que ça se passe pas très bien. Ça se passe de moins en moins bien. Et j'ai l'impression qu'ils sont, ils voient pas ce qui se passe de mal. Et de l'extérieur, moi, personnellement, ma petite personne, de ce que je connais, j'ai l'impression de me dire, voilà, à un moment donné, pourquoi vous ne faites pas ci, ça, ça, comme ça? Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que je tiens la vérité absolue. Je dis seulement que ça me paraît tellement évident, de l'extérieur, à un moment donné, que tu sois un peu dans l'intérieur, dans le brouillard, c'est normal. En plus, Lyon, c'est la façon de fonctionner. Ils fonctionnent entre eux. Ils aiment pas trop regarder ceux extérieurs, les conseils de l'extérieur. C'est pas de l'histoire de la maison, parce que c'est toujours bien passé. Mais à un moment donné, quand ça se passe mal, il faut le reconnaître et il faut changer. Et moi, de ce que je vois à Lyon depuis un certain temps, c'est qu'on se trompe. Mais à force de se tromper un petit,
Mais il a fait appel à un coach, justement, extérieur. C'était pratiquement une première pour eux.
Oui, alors, ouais, mais est-ce que c'était le coach qu'il fallait? Quand on regarde l'histoire du coach ces dernières années, il était, je crois qu'il a fait son troisième club en cinq ans.
C'est ça, ouais.
Moi, j'adore quand on m'explique qu'un coach, il a des projets de jeu, tout ce que vous voulez. 90% ou 99% des coachs, ils vont vous dire la même chose. Récupérer le ballon haut, faire un pressing à récupérer, voilà, une fois la possession, temps fort, voilà. C'est tous les coachs vous diront la même chose. La différence, c'est comment un coach il arrive à mettre en application ce qu'il dit. Et ce coach-là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, peut-être au début, tout le monde se dit ça peut marcher. On lui laisse 6 mois, ça marche pas. Il revient en début de saison et l'équipe a exactement les mêmes faiblesses que l'année précédente. Mais c'est vraiment les mêmes.
Oui, mais sauf qu'il est parti tout de suite. Hein.
Pardon ?
Il est parti.
Il est parti. Non, mais il n'est pas parti tout de suite justement.
Ouais, enfin, pas parti tout de suite. Il est parti au bout de 10 journées quand même. Bah, ils l'ont pas
oui,
gardé.
Ouais, oui, oui,
dans l'absolu,
je dis pas ça pour que le coach parte au final.
Non, mais parce que, il y a un truc qui est complètement aberrant dans cette histoire, c'est qu'on dit toujours, il faut laisser un mec s'installer. Donc, au bout de 6 mois, on voit que ça marche pas. Donc, il fallait le virer au bout de 6 mois. Non, parce qu'il faut laisser un mec s'installer. Au bout d'un an, ça marche pas. Mais, la plupart des gens disent, il faut quand même laisser du temps. Donc, tu le fais repartir, au bout de 10 matchs, ça marche pas, tu le vires.
Non, mais
je vois pas en quoi on a exagérément poursuivi une aventure négative.
Non,
je pense qu'on a fait tout dans le timing. Moi, je pense le problème à Lyon sur les dernières années, si ça doit se résumer à l'échec de Boss, à mon avis, on n'a rien compris au problème.
Je dis pas que c'est l'échec du coach. Je dis que c'est pas un coach adapté aux joueurs qu'il avait. Il a des très bons joueurs, mais il fallait un coach qui soit plus dans le management un peu à la dure entre guillemets pour ce genre de joueurs. Aujourd'hui, le coach, moi, ce qui m'avait dernièrement, c'est ce qui m'avait choqué, c'est qu'après un match, son discours a été de dire oui. Pourquoi vous n'avez pas changé? Il y a eu une question de la presse. Je n'ai pas changé parce que si je change, ça veut dire que je me suis trompé. Mais quand tu perds 4-5 matchs de suite, à un moment donné, c'est que tu t'es trompé quelque part.
Non, mais s'il se soit trompé, il n'y a aucun problème. Mais le problème, il est beaucoup plus vaste, Sydney, à Lyon. Sur les dernières années, tu nommes des gens à des postes en leur donnant des fonctions. En te demandant où est le pouvoir, qui est le directeur du football, celui qui a le poste, le nom du poste sur une plaque sur son bureau, Juninho que tu fais revenir pour faire plaisir à tous les supporters, qui est le décideur. Ensuite, on fait venir un entraîneur brésilien. Au bout de 3-4 matchs, on s'aperçoit déjà que ça va pas. Au bout de 10, on le vire également. Là, pour le coup, Lyon, on l'aura pas laissé travailler longtemps. Je remonte encore un peu en arrière. On doit faire venir un coach. On en prend un qui a chié sur le club. Mais on dit quand même que c'est pas grave parce qu'il a bien travaillé. À ce moment-là, En ce moment-là, on fait passer l'entretien à un type. On fait circuler le bruit dans toutes les rédactions que c'est un bidon.
Laurent Blanc.
Qui sait rien faire et qui avait pas bossé en arrivant. On dit ça à tout le monde. Tout le monde le répète. 5 ans après, le mec arrive. Et on dit il est formidable, c'est une histoire d'amour qu'on aurait dû commencer plus tôt. C'est-à-dire, c'est vraiment Peter Bosz le problème sur les 10 dernières années à l'OL?
Non, je répondais à la question.
À un moment, il faudra avoir le courage de dire qu'un président, ça se fatigue.
Mais justement, il en parle.
J'en ai parlé aussi. Là, je répondais à la question du coach. De toute façon, il s'est fait virer, entre guillemets. Mais si tu pourras être, je suis assez d'accord avec toi. En fait, t'as un club qui était beaucoup dans l'anticipation, à ma génération, et qui est devenu un club dans la réaction. Et dans la réaction, généralement, tu prends rarement des bonnes
choses. Dans la panique même, parfois.
Tu réagis, t'étais au dernier moment, tu t'es dit, ouais, c'est la solution, tu dis, ouais, peut-être celle-ci, peut-être celle-là. Et en même temps, il n'y a personne qui décide réellement. On ne sait pas.
Tu le trouves toujours à la hauteur, Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, ou pas? Ou tu dis, merci, c'était magnifique, grand président, tu le dis, tu lui rends hommage dans le bouquin.
Le président, pour moi, il sera toujours au-dessus. Il sera toujours au-dessus, c'est un grand président. Maintenant, comme tout président, il a le droit de se tromper.
C'est vrai qu'il enchaîne les erreurs
des dernières années, ce ne sont que des erreurs.
Oui, mais c'est une erreur, on entraîne une autre, généralement. Mais le président, c'est un humain, il peut se tromper comme n'importe qui peut se tromper.
Bah, pour pas te tromper, alors après, il faut déléguer.
Ce genre de personnage de pouvoir, entre guillemets, avoué de se tromper, le président, c'est très compliqué. Et je pense qu'à une époque, il y avait des gens autour de lui qui pouvaient lui dire.
Tu penses que Bernard Lacombe quand tu dis ça?
Entre autres. Ouais. Il n'y a pas que Bernard Lacombe, parce que vous connaissez que Bernard, mais il y a des gens qui étaient avec lui qui pouvaient lui dire, Jean-Michel, là, non.
Tu penses que Vincent Ponceau ne peut pas lui dire?
Non. Non, mais arrête, non.
Mais je pose des questions volontairement, naïvement.
Dans les gens qui avaient autour de lui l'importance de Jérôme Sédoux, par exemple.
Oui, c'était des gens qui pouvaient lui dire. Bah, si Jérôme Sédoux s'en va aujourd'hui, il y a une raison. Il y a toujours une raison. Mmh. Oui, à un moment donné, il y a des gens de l'OL qui pouvaient dire au président. Il n'y a pas que Sédoux, il y a d'autres personnes que je connaissais très bien qui vont de tête à tête lui disaient Jean-Michel, stop.
Tu évoques dans ton bouquin une erreur aussi que tu imputes à Jean-Michel Aulas, une sorte de basculement, c'est l'arrivée de Memphis Depay à l'OL en 2017. Tu écris, il l'a chouchouté en lui parlant de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Tu fais d'un gars égoïste l'égérie d'un club qui au contraire doit véhiculer un collectif fort, leader individualiste. Il a inversé les valeurs des années de gloire.
C'est absolument vrai.
Ça c'est ma vision du football. Je considérais toujours. Alors, tout le monde va me dire, ouais, Memphis, t'es un top player, si vous voulez. C'est un super joueur de foot, très bon joueur de foot. Hein. Mais tu construis pas un joueur, tu construis une équipe. Voilà. Ouais, et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu tromperie, je sais pas pourquoi. Il s'est appuyé sur quelqu'un qui, pour moi, a été négatif, a été néfaste pour la suite, pour des jeunes. Pour moi, ça peut pas être un exemple pour des jeunes. Ça ne peut pas. Alors, ça enlève rien au côté magnifique du joueur. Moi, je l'ai vu jouer.
Oui, parce que sur un match, il était toujours capable.
Ah oui, c'est exceptionnel.
Il a rattrapé des coups aussi. Il a sauvé.
C'était le joueur offensif qui faisait la diff.
Il a sauvé l'équipe sur une saison, sur des bouts de saison, oui.
Non, pas sur une saison, justement. Sur des matchs, mais pas sur une saison. On l'a vu avant Lyon et après Lyon dans le cadre de Memphis.
Et à un moment donné, tu construis un club et une équipe, et c'est sur la durée. Et tu sais très bien que Memphis, à un moment donné, tu savais très bien qu'il allait partir. C'est pas le genre de joueur qui va rester pendant 10 ans, qui va te faire évoluer.
T'as eu le sentiment dans le Lyon dans lequel t'as évolué comme joueur, justement, où il y avait aussi des grosses personnalités et des égos forts, forcément, que justement, les égos ne prenaient jamais le pas sur le collectif?
Mais parce qu'il y avait un collectif tellement fort qu'à un moment donné, si un joueur commençait à aller trop haut, collectivement, on pouvait le rattraper.
Et tu l'as vécu avec qui, par exemple, comme joueur à l'époque?
Juni, c'était un fort caractère.
Ouais.
C'était notre meilleur joueur, mais c'était quand même un fort caractère. Juni, de temps en temps, il n'était pas facile. Tous les jours, c'était pas évident. Il râlait énormément. Mais on avait tellement un collectif fort qu'à un moment donné, Juni, on savait que, par exemple, Claudio, parce qu'il avait des rapports avec le Brésilien, allait lui dire, Juni, voilà.
C'est-à-dire, il y a le pouvoir contre pouvoir.
Oui, il y a toujours. On peut parler de Karim aussi, qui est un gros caractère. Et Karim, de temps en temps, moi, on me disait, va parler à Karim parce que le gamin, il ne faut pas non plus qu'il s'enflamme.
Et tu étais capitaine également, d'ailleurs.
Et pourtant, c'était notre meilleur joueur à ces moments-là. Mais il était jeune, on lui disait.
Moi, j'ai beaucoup aimé les pages.
2008, là.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé les pages sur Karim Benzema parce que il a bon aujourd'hui c'est un saint homme hein. Depuis, depuis hier tout est de la ville de Karim Benzema c'est tout est magnifique, tout est beau. Toi tu rends évidemment hommage au talent du joueur, mais tu expliques justement ça et tu expliques justement, j'ai reçu Juninho chez Rotten hier qui disait non Karim il affirmait son ambition mais il était très facile dans le groupe, etc. Toi tu dis exactement le contraire dans le livre, tu dis ça a été un vrai problème à gérer tout de suite.
Mais il fallait le gérer tout de suite.
Ouais.
Il fallait pas attendre qu'il prenne trop de confiance justement et après ça devenait néfaste pour le groupe. Mais quand je comprends quand Juni dit il était facile à gérer, c'est-à-dire qu'il a toujours travaillé. À partir du moment où le gamin travaille, généralement.
Ça, c'est un truc qu'on il a toujours été nickel là-dessus, vraiment.
Ça,
le gamin, c'est quand il arrive avec vous en 2005 dans le groupe pro.
Il travaille, c'est un féru de travail, il est toujours là, toujours présent, il ne sera jamais en retard, il est vraiment nickel de ce côté-là. Mais pour moi, il avait une attitude de temps en temps pendant les matchs qui laissait à désirer. Les gestes quand le ballon n'arrive pas. Voilà. Et ça, j'ai toujours dit, ça peut pourrir un groupe très rapidement. Donc, moi j'avais une relation particulière avec lui, donc j'allais le voir lui dire Karim, s'il te plaît, non, fais pas ça, parce que l'autre va commencer à râler, l'autre va râler, on va se
retrouver.
Qu'est-ce
que t'as ressenti hier quand t'as vu finalement ton ancien Mino sous le ballon d'or, justement?
J'étais surtout content pour lui. Surtout content pour lui parce que, déjà, ça m'a réconcilié avec le football. Alors, je sais pas si on est tous d'accord, mais j'en avais un peu marre du côté stats, tu vois, ça me fatigue.
Oui.
Que le meilleur joueur, c'est celui qui a le plus marqué, qui a fait le plus de faces, Et là, en fait, tu récompenses un joueur qui est, certes, il a de la stat, hein, mais en même temps, c'est un footballeur, quoi. C'est du foot.
Dans le bouquin, tu dis, s'il y a un mot pour le qualifier, c'est intelligence.
Ouais. Il est très intelligent, intelligence de jeu, Il faut regarder ses déplacements. Et surtout, il faut le regarder. Moi, j'adore le dire. Quand il était jeune, il a quasiment les mêmes qualités. De déplacement, il sait jouer en remise, il sait tout faire. Et justement, on voit tout au long de sa carrière, nous, il a commencé en jouant à gauche, il s'est affirmé parce qu'il voulait jouer dans l'axe. On sait très bien qu'un joueur qui joue attaquant, qui marque des buts, forcément, il a plus de chances d'aller dans un grand club. Tout a été relativement calculé. Mais avec tout le temps, cette faculté à jouer, jamais seul, mais vraiment pour l'équipe. Et forcément, quand t'as un joueur comme ça, il va marquer des buts. Parce qu'autour de nous, on est autour de lui, on lui donne le ballon parce qu'il marque.
Oui, tu donnes. C'est intéressant, ballon, hein. Il a la même qualité qu'il avait il y a 15 ans quand il a débuté en groupe pro. Ouais. C'est valable pour Ben Arfa aussi, finalement.
C'est vrai
que tu as pu débarquer un an avant Benzema à Lyon.
Il y a un peu moins d'exigence de jeu chez Athènes qui est beaucoup dans les figurances.
C'est ce que je dis, il est resté le même joueur finalement. De 17 ans à 34 ans.
Il est arrivé à 15 ans, il prenait le ballon, il dribblait tout le monde, c'était hallucinant. Mais bon, à un moment donné, le foot, il n'y a pas que ça. Il faut aussi jouer avec tes coéquipiers.
On en a beaucoup parlé déjà d'Athem Ben Arfa, on va pas en faire.
Juni, je veux revenir.
Attends, Daniel, c'est terminé entre Lyon et Arsenal. Edouard G.
Ah non, c'est pas terminé. Mais 5-1 pour Arsenal à la 70e minute. Ça fait vraiment tâche avec le doublé pour Kathleen Ford à la 68e minute. Et puis derrière, le doublé aussi pour Beth Mead. Ça fait 5-1 et le quatrième but est marqué sur une énorme faute de Wendy Renard. Tout un symbole. Elle a relancé plein axe pour donner carrément le ballon à l'Australienne Kathleen Ford. Donc 5-1 pour Arsenal ici à la 71e minute.
C'est quoi cette débâcle?
C'est la plus lourde défaite de l'histoire de Lyon.
Exactement,
Edouard.
Chez les filles, c'est la plus lourde défaite. Ça explique parce que il y a toutes les cadres sont blessés. Hein, donc il y a une équipe assez jeune. On doit bricoler du côté de Sonia Bonpastor. Et aujourd'hui, en Ligue des Champions, ça se voit dans cette première journée de phase de groupe.
Et c'est aussi le montant en puissance du football féminin anglais, évidemment. Daniel.
Juninho.
Oui.
Ah. Tu l'as connu sur le terrain, c'est la grande époque, c'est le joueur leader de ce Lyon-là, un des joueurs préférés peut-être encore aujourd'hui des gens qui allaient à Gerland à l'époque.
C'est le joueur, le plus gros joueur de Lyon.
Il est revenu parce que Olas a voulu, c'était un message fort envoyé à tout le monde. Son passage, comment tu le juges? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est de la même manière, ça a été fait précipitamment et dans le mauvais sens. Je pense que Juninho a largement sa place à l'OL, il aurait dû revenir. Il est revenu, mais dans le contexte dans lequel il est revenu, il est pas bon. C'est-à-dire qu'il revient, on ne sait pas trop si c'est pour ses réelles compétences ou si c'est pour contenter les supporters où il y avait une run, en disant Juninho revient, il va remettre de l'ordre dans la maison. Et directeur sport, à ce poste-là, je considère qu'il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir l'expérience d'un club ou apprendre avec quelqu'un qui est avant toi, qui t'apprend ce rôle-là. Alors oui, il avait passé ses diplômes, je sais, il était assidu, j'en ai entendu parler, j'ai discuté beaucoup avec lui. Mais c'est un métier qui s'apprend, comme tout s'apprend. C'est pas parce que tu as été un grand joueur que tu vas être un grand entraîneur, et même quelqu'un qui n'a jamais joué au foot peut devenir un grand entraîneur, dans les deux sens, parce que tu as appris. Et ce rôle-là, directeur sportif, pour moi, c'est un rôle capital dans un club.
Bien sûr.
Et je pense que l'erreur qu'il a faite, ou qu'ils ont fait de façon collégiale, parce que c'est pas que lui, il a pas dit je viens à ce poste-là, on lui dit viens là, il a accepté. moi, je lui en ai parlé. Alors, il était fâché quand je lui ai expliqué. Je pense qu'il a, il a accepté trop rapidement. Il aurait dû prendre le temps.
Il a accepté trop rapidement ou on lui a dit tu seras le boss, mais t'es pas vraiment le boss parce qu'il y a Ponceau qui est là.
Eh bien, justement, c'est trop rapide. Parce qu'il aurait peut-être dû se renseigner comment fonctionnait l'OL à ce moment-là.
D'accord.
Et peut-être qu'il aurait pris, il aurait pris différemment. Parce que ça s'est passé assez rapidement, en 2-3 mois il arrivait. Alors on lui dit Genesio sera là, lui sera là, lui sera plus là. Finalement il arrive, Genesio, il n'est même pas encore arrivé que Genesio est viré. Il vient dans une situation et je pense que quelque part il découvre le club dans un nouveau mode de fonctionnement.
Il a un avenir comme directeur sportif d'après toi, Juninho?
Parce qu'il en a réellement envie, Stéphane.
Ah, je ne sais pas.
Moi, pour moi, personnellement, je pense que c'est plus un homme de terrain. Je pense qu'il a besoin d'être proche du terrain, il a besoin d'être proche des joueurs. Et pour moi, un directeur sportif doit avoir un certain nombre de recul et surtout ne doit pas être forcément dans l'affect. Et Juninho, c'est quelqu'un de très affectif.
Et dans la politique aussi. Il n'est pas assez politique peut-être pour.
Sidney, tu veux être entraîneur. Tu le dis dans le bouquin.
Je dis que je veux. Est-ce que.
T'as commencé à passer des diplômes
j'ai
ou pas
passé
du tout
aussi, j'ai mon DES, j'ai quand même passé mon DES. Mais ouais, j'aimerais bien. Alors, c'est très compliqué, c'est un sujet très compliqué parce que c'est des opportunités d'entraîner. Pardon.
Non, mais t'as raison. On va parler de ça dans un instant. Puis t'as peur aussi de l'image que t'as eue en tant que joueur fêtard pour entraîner et gérer un vestiaire notamment. On va en parler également de tout ça. Vous écoutez l'After sur RMC, 22h31 avec Stéphane Guy, Daniel Riolo, Sénégo, vous, notre invité. Les directs, toujours 5-1 pour Arsenal sur la pelouse de Lyon, Ligue des champions féminines. Liverpool s'est imposé 1-0 face à West Ham. 1-0 pour United grâce à Fred face à Tottenham, but inscrit à la 47e minute de jeu. Restez avec nous dans l'After. Ciné est avec nous. On parle de Lyon encore. De sa carrière également, de Raymond Domenech notamment, Santini aussi, Paul Le Guen, l'ami de Stéphane.
Ah, je veux qu'on en parle parce que Daniel est là. Il va pouvoir trancher un débat qu'on a eu récemment.
Teasing. Allez, à tout de suite dans l'After sur RMC.